Nous sommes la voix indépendante de la grande communauté d'Ottawa-Gatineau. Ici CHUO 89,1 FM, la station qui se veut être le reflet de la région de la capitale nationale. Ici Denis Ménard à l'Université d'Ottawa et on vous présente maintenant une autre capsule dans la série Paroles et musique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un artiste qui a souvent changé de terre, du Saguenay à Québec, à Montréal, pour ensuite établir résidence à Paris. Ce jeune homme, à la jeune trentaine, nous a livré récemment un nouveau disque, son troisième, un disque ayant pour titre « Noir Eden ». Et il est ici aujourd'hui pour nous en parler et nous faire entendre quelques extraits. Notre invité aujourd'hui, à Paroles et musique, l'artiste du nom de Peter Peter.
Assis devant rien, je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Désormais fantôme, il ne m'écoute plus, je le comprends, je m'écoute trop et ça ne mène jamais ailleurs. Seul avec moi dans un diner ouvert 24 heures où les gens prennent pour emporter. La soupe est chaude, les toilettes propres, la dame est gentille et quand elle parle défile les sous-titres comme au cinéma. C'est un film noir, oui je suis sûr, j'espère au moins. Quelqu'un regarde le code de la fin. J'ai des questions, des milliards de questions, une de plus à chaque seconde.
C'est un film noir, c'est un film noir, c'est un film, c'est un film noir, c'est un film noir, noir à la terre.
C'est la chanson titre du plus récent album de Peter Peter, une pièce que on vous avait présentée lors de nos chroniques nouveautés du lundi soir à l'émission Pastiche le 4 juillet dernier. Puis à ce moment-là, c'était le premier extrait d'un album à paraître. Et nous voici 8 mois plus tard, maintenant que l'album complet est entre nos mains, et l'artiste lui-même est avec nous pour en parler. Bonjour et bienvenue à CHOFM, Peter Peter.
Bonjour.
Il s'est écoulé une période de 4 ans entre l'arrivée de ce nouveau disque et le précédent. La chanson-titre qu'on vient d'entendre doit avoir vraiment un sens spécial pour vous, si vous l'avez choisi, un, comme premier extrait, et comme la chanson-titre du disque.
Oui, en effet, c'est la chanson la plus emblématique. C'est celle qui réunit un peu les thèmes tout ensemble. C'est-à-dire, c'est ça, c'est le Noir Eden, pour moi, c'est un peu l'univers dans lequel le personnage a l'impression de vivre, qui est en l'occurrence moi. Qui a l'impression qu'en fait que c'est un univers fait de toutes pièces, qui est factice, qui vit dans un monde d'illusions et que tout autour de lui est déjà programmé et scénarisé. Et ouais, fait que c'est la pièce thème de l'album et représente très bien l'album en effet.
Et c'est vous qui êtes le personnage principal, c'est bien ça?
Ouais, moi en version peut-être plus cryptée, c'est ma vie d'une façon cryptée, c'est assez abstrait, c'est presque onirique. C'est ça, c'est un album qui s'est fait un peu dans l'immobilité et j'étais très casanier, je passais des journées entières à me concentrer, vraiment c'est vrai, très introspectif, alors ouais, c'est ça en gros.
Si on retourne un peu en arrière, afin de peut-être mieux vous connaître, on peut vous demander de quelle région vous êtes originaire?
Oui, je suis originaire de Saguenay en fait.
De Saguenay même ou de
notre... Oui, aujourd'hui ça s'appelle Saguenay je crois, je suis né à Jonquière, j'ai grandi à Chicoutimi. Ensuite Québec, okay. Et après Montréal, et maintenant j'habite Paris. Ouais.
Est-ce que vous avez toujours de la famille qui demeure au Saguenay?
Non, on a bougé à mon adolescence, en fait.
Et vous êtes un enfant unique dans votre famille?
Oui, exactement.
Alors, dans votre entourage, est-ce qu'il y a d'autres personnes, des parents, grands-parents, qui auraient pu avoir une influence musicale pour vous?
Non, pas vraiment, non. Personne, en fait. Je pense que c'était l'écriture qui m'a amené vers ça. C'est vraiment arrivé par hasard dans ma vie. J'étais pas prédestiné à baigner dans le monde des arts. J'ai tout simplement, c'est arrivé comme un accident dans ma vie, ouais.
Ça s'est concrétisé de quelle façon, cet éveil-là? C'était accidentel, vous dites?
Je pense que ça a été le cinéma qui me, à 14 ans, je me souviens avoir vu L'Orange Mécanique, le Clockwork Orange, puis ça m'avait fasciné, puis j'avais compris qu'un, je veux dire que l'art pouvait être puissant, bizarrement, en regardant ce film-là, que finalement le film, c'est à 14 ans, avant 14 ans, peut-être que je regardais plus de Bruce Willis dans des Die Hard et des trucs comme ça, puis quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait une, ça m'a poussé vers l'écriture, bizarrement. Après, je voulais peut-être faire du cinéma, mais après, j'ai étudié en cinéma. Mais l'écriture était plus forte parce que, justement, ça se prêtait bien à ma solitude, à mon tempérament. C'est ça, un peu toujours en retrait. Et c'est ça. C'est, puis l'écriture m'a amené à faire de la musique, genre parce que j'ai mes amis autour de moi et qui étaient un peu artistes, et ils étaient musiciens, alors ça m'a influencé, puis jusqu'au moment où j'ai décidé de me lancer à fond, puis de faire ça de ma vie. C'est vraiment arrivé à tout hasard.
Curieux que vous mentionnez Orange Mécanique. Premièrement, il y a beaucoup de synthétiseurs dans la trame sonore de ce film-là, que vous utilisez beaucoup vous aussi maintenant.
Non, c'est ce qui est bizarre, oui, parce que oui, j'avais aimé la trame sonore, mais ça m'a pris vraiment longtemps avant d'avoir cette curiosité-là, mais oui, comme je dis, parfois on est programmé par des trucs. Je pense que sûrement que ça s'est glissé dans mon inconscient, justement les trames sonores de Wendy Carlos.
Mm-hmm.
Exactement. Puis je pense que ça a fini par émerger tôt ou tard, ouais.
Comme interprète, est-ce que vous avez eu des influences artistiques qui vous ont amené à faire carrière aussi, des artistes qui vous ont influencé?
Bien sûr, encore. J'ai 33 ans aujourd'hui et je suis encore influencé par des artistes. Il y a encore des artistes vivants que je trouve qui tirent bien leur épingle du jeu dans leur carrière à long terme. Maintenant, il y a même des artistes de 19-20 ans qui me fascinent. Je suis encore très fasciné par la relève ou encore par ceux qui continuent à faire de bons albums avec les années. Sinon, c'est sûr que l'adolescence a été bon, des trucs comme Smashing Pumpkins, Nirvana, des trucs comme ça. Je veux dire, c'est sûr que ça a séduit l'adolescent en moi, tout le côté poète maudit de Kurt Cobain ou que ce soit Jim Morrison. Ou après ça, c'est sûr que je suis allé dans des trucs justement Caribou, je sais pas, je pense à Ariel Pink de XX. C'est des trucs, ouais, je consomme encore tout m'influence à un certain point, mais après, est-ce que c'est perceptible dans mon travail? Peut-être, mais c'est toujours, je suis toujours curieux de savoir où les gens auraient l'impression d'entendre justement mes influences, parce que moi je suis pas très objectif par rapport à ça, mais c'est sûr et certain que ouais, j'ai beaucoup d'influence.
Est-ce que vous diriez que parmi les 11 titres qu'on trouve sur votre nouveau disque, parce que vous avez mentionné tantôt que vous demeuriez à Paris, est-ce qu'ils ont été composés à Paris, ces chansons-là?
Ouais, je dirais que 90% ont été composés à Paris, dans un petit appartement de Montrouge qui est la 5 minutes à pied de Paris. J'ai tout composé là, ouais.
Et il y a une chanson qui s'intitule « Bien réel » sur l'album que vous nous offrez. Et vous dites « J'imagine que c'est bien réel ». Est-ce qu'il y a du vécu dans cette chanson-là? Parce que moi, je trouve que vous avez l'air plutôt d'un explorateur dans cette chanson-là.
Ben, c'est un peu ça, oui. En effet, c'est de se rendre compte que c'est un peu... Dans cet album-là, c'est un peu que la personne qui se sent un peu prisonnier de même ce qui l'entoure a l'impression que tout est justement factice et que c'est faux et que c'est un monde de contraintes, c'est un monde de limites, c'est un monde où il y a la vie et où il y a la mort et qu'on a tous que tous ces contraintes-là et toute cette fatalité-là, et un jour, il y a une faille qui se crée et il se rend compte que depuis le début, si ça se trouve, l'aube de l'humanité, il vivait un mensonge et que à partir du moment qu'il passe à travers cette faille-là, il est transporté de l'autre côté du mur, et de l'autre côté du mur, en fait, c'est l'éternité et c'est un monde de possibilités, et c'est toutes les possibilités, il devient omnipotent et tout ça, et puis en fait, il y a plein de trucs qui se confondent entre eux parce qu'il veut pas, il arrive là avec son regard d'être humain et tout, et il essaie d'interpréter ce qui se passe, mais tout se passe très vite, puis il a l'impression que maintenant il est dans la réalité alors qu'il la comprend pas encore, en fait.
J'ai retrouvé sous mes angles de la terre, celle d'un endroit où je n'ai jamais été. Le plafond est étoile, le sol jardin. Des cascades dans mes cheveux se frottent au chemin. C'est un royaume où règne.
silence, il me fut entièrement légué, oui, je pense. J'imagine que c'est bien réel. J'ai la saison que je veux quand je respire. Apparaissent mes voeux sans que je n'ai pu les dire. Je peux tout revivre et tout transformer.
Puis on est effectivement dans un monde de claviers électroniques avec bien réel, un extrait de Noir Eden de Pierre Pierre qui nous accompagne aujourd'hui. Avec ce nouvel album, vous êtes tout de même demeuré assez fidèle au style que vous utilisiez dans une version améliorée de La Tristesse, votre album précédent. Mm-hmm. Il y a peut-être moins de sons de guitare cette fois-ci, par exemple, que l'album précédent?
De moins en moins, il y en a de moins en moins, c'est vrai.
Les claviers électroniques sont très prédominants, ça c'est certain.
Oui, exactement, je pense que j'ai cette curiosité-là, mais après, en ce moment, c'est autre chose. Je fais les deux. En ce moment, chez moi, je continue beaucoup à écrire en ce moment, puis j'essaie de faire quelque chose, même complètement l'inverse, guitare-voix. Mais oui, pour Noir Eden, franchement, c'est ça. Je pense qu'une version améliorée de La Tristesse avait ouvert une porte qui à ma curiosité, puis j'étais pas encore... Je suis encore dans l'exploration de tout ça et ça m'intéresse encore. C'est un monde hyper dense puis rempli de possibilités justement et il y a de beau avec l'électronique. C'est ce que je trouve de joli, c'est qu'il y a de beaux hasards, il y a de belles erreurs en fait. Il y a toujours quelque chose qui fait une mauvaise manipulation en séquençant un synthétiseur. Puis il y a toujours avec les erreurs, il y a toujours quelque chose de magique qui arrive. Et c'est un monde qui m'intéresse en fait.
Est-ce que les claviers vous permettent peut-être de créer plus une ambiance spéciale ou si ça vous donne quand même une certaine liberté peut-être quand vous les utilisez?
Oui, ça me donne une liberté, c'est ça. Quand je suis arrivé à Paris, c'est de l'électronique, ça finit par remplacer un peu un groupe complet. Mm-hmm. Quand je suis arrivé à Paris, c'était un peu ça. Là, maintenant, j'ai des musiciens pour le live qui sont extraordinaires, puis c'est des musiciens français, et j'ai réussi à trouver un bon groupe, mais quand je suis arrivé à Paris, c'est sûr que j'essayais d'être autonome dans mes arrangements et tout ça, et l'électronique m'ouvrait ce monde-là de possibilités d'autosuffisance, en fait. C'est juste pour ça que je suis allé à fond de ce côté-là.
Sur votre album, on découvre que vous êtes aussi un romantique, parce que je pense que le texte de votre chanson « Loving Game », en plus d'être une bonne chanson pop, offre du contenu comme, et je cite, « Gise bien au fond des abysses, nos épaves maintenant enlacées, je l'espère pour l'éternité ». Je trouve ça très beau, ce texte-là. C'est imagé et rempli d'amour, Pierre.
Ouais, c'est une chanson pop avec... je trouve que c'est une pop à l'ancienne, en fait. C'est ce qui m'intéressait, c'est ce côté Michel Berger, ce côté de... avec des textes bien poignants dans des chansons hyper pop ou des trucs... pour moi, c'est... Je suis assez content d'avoir réussi à faire quelque chose comme ça avec un refrain anglais hyper fédérateur. Dans un moment de ma vie où j'étais hyper reclus et solitaire, pour moi, cette chanson-là, c'est comme un genre d'ovni que j'ai pas vraiment eu le choix de mettre sur mon album. Ouais.
Gise bien au fond des abysses, nos épaves maintenant enlacées.
bel enregistrement, une chanson pop exemplaire, Loving Game, extrait de l'album Noir Eden de Peter Peter. On retrouve 12 nouvelles chansons sur votre nouvel album, et c'est vous, Peter Peter, qui êtes l'auteur de chacune, n'est-ce pas?
Oui, en effet.
Est-ce que la création des pièces, pour vous, c'est un processus qui est long et ardu, ou bien si une fois que vous avez l'inspiration, votre plume devient plus facile?
Je crois qu'il faut battre le fer quand il est chaud, parce que pendant une période, j'écrivais moins, et c'était moins dans mon lifestyle. Avec tous les déménagements, c'était devenu moins systématique que j'écrivais. C'était juste moins sur mes plages horaires. Quand je recommençais à écrire, je trouvais que ça prenait un moment avant que j'aime ce que j'écrive. Et maintenant, depuis que j'ai fait l'album, ben, je me suis toujours pas arrêté d'écrire, en fait. Alors, y a ce côté-là. Oui, quand l'inspiration est là, il faut... En fait, c'est une partie qu'il faut toujours garder vivante, en fait. Puis à partir de ce moment-là, franchement, un texte, ça prend 15 minutes à écrire. une fois qu'on sent comme en syntonie, je dirais, avec le néant, je dirais, ça reste super abstrait, le côté créatif. Une fois qu'on est bien syntonisé, ben ouais, en général, ça me prend pas trop de temps.
Trouvez-vous que le fait de vivre loin des vôtres, dans un autre pays même, ça vous encourage à composer? Y a-t-il un impact peut-être si vous vivez plus de solitude?
Pendant un moment, justement, je suis pas certain que ça m'a nourri trop. Je pense que maintenant même, je fais attention à la solitude, même si j'ai trouvé de beaux trésors. Après, c'est, je pense, pour mon équilibre, je pense que c'est pas bien de trop y aller. Je pense que oui, ça a mis un moment avant de se transformer en chanson, par contre. L'anxiété, en tout cas, c'est parfois, franchement, déménager dans un autre pays, ça me rend anxieux sans me l'avouer vraiment. Et ça, l'anxiété, c'est pas quelque chose qui me fait écrire, c'est quelque chose qui m'empêche de dormir et qui me paralyse un peu. Alors, maintenant, je me sens chez moi à Paris. Alors, depuis que je me sens chez moi, c'est plus facile d'écrire. Quand je me sentais qu'un voyageur et je vivais dans mes valises, franchement, j'étais pas très inspiré.
Si on revient au contenu de votre album, on y trouve une pièce qui a pour titre Damien. Cette personne semble être bien importante pour vous. Est-ce que c'est une personne réelle qui existe vraiment?
C'est une personne réelle, ouais. C'est une personne réelle qui... C'est quelqu'un un peu qui vient du même... qui a le même bagage que moi au niveau... l'enfance et tout, on a un peu les mêmes repères, puis on a été très proches. Ça a été un de mes meilleurs amis, justement, à la fin de l'adolescence. Puis, je me sentais très proche, c'est ça. Alors, on s'est perdu de vue, ça doit faire 10 ans qu'on s'est pas vu. Et lui, il habite très loin, dans le nord du Québec, et moi, j'habite... Alors, les chances qu'on se revoie, et de toute façon, c'est ça, nos parcours se sont séparés, mais pour moi, c'était... Oui, c'est important parce que c'est quelqu'un que j'ai... C'est une époque de ma vie que je suis très comme reconnaissant parce qu'il m'a beaucoup aidé, même justement dans le début de la musique. Et c'est lui qui me disait franchement qu'il préférait justement qu'est-ce que je faisais seul avec une guitare, qu'est-ce que je faisais avec mon entourage. Puis je trouvais ça cool, en fait. Puis le mec était un de mes meilleurs amis. Puis en fait, c'est ça. Et je sentais à un certain point que j'y devais une chanson. Et pour moi, j'avais jamais écrit de chanson... J'ai toujours écrit des chansons pour mes copines ou pour mes muses, mais comme pour l'amitié, j'avais jamais réussi à écrire une bonne chanson. Et quand j'ai réussi à écrire une bonne chanson pour Damien, j'étais touché parce que une chanson pour l'amitié, c'est puissant. Pour moi, c'est un bel accomplissement, en fait.
Je t'ai retrouvé dans un mauvais rêve couvert de pluie. Tu me détestais et tu me reprochais d'être qui je suis, mais je t'avais retrouvé.
chanson s'appelle Damien et c'est tiré du nouvel album de Peter. Dis-moi, est-ce que cette chanson-là que tu as composée pour ce grand ami, est-ce qu'il l'a entendue?
Bonne question. Avec Facebook, tu vois, là, je viens de réactiver Facebook. Je crois pas qu'il a Facebook, mais j'ai pensé l'envoyer à des amis en commun, c'est ça. Mais ouais, je serais très fier, en fait. C'est sûr que c'est... Ouais, je serais très heureux qu'il l'entende. Il faut que je l'envoie à un certain point parce que c'est une chanson qui dit que du bien, en fait.
Ouais, j'aurais été curieux de voir quelle aurait été sa réaction lorsqu'il l'a entendue.
Ah, moi aussi, franchement, ouais.
Il y a sûrement d'autres gens que vous avez bien aimés et qui ont travaillé avec vous dans le passé. Je pense particulièrement à Emmanuel Etier, ici. Est-ce que ces gens-là ont participé à la réalisation de Noir Éden?
Absolument, oui. Oui, c'est un album qui, dans un premier temps, se faisait beaucoup dans ma tête, comme je dis, mais quand j'émergeais et que j'allais en studio, j'avais des gens quand même pour m'accompagner et pour m'aider pour fignoler les trucs, et Emmanuel a été le principal à le faire, en fait. J'étais aussi entouré de Pascal Chef-Stéchi qui avait travaillé sur Une version meilleure de tristesse et qui l'avait mixé, et là il a mixé Noir Éden, et à Paris aussi avec Pierrick Devin qui a mixé Loving Game et qui a travaillé avec moi sur des trucs comme Bien Réel et Noir Éden après que ça sorte de chez moi. Alors j'ai eu des collaborateurs, même si la production a été beaucoup signée par ma patte. J'ai eu des très bons alliés qui ont fait de très bons travaux.
Comment arrivez-vous à réaliser un nouvel enregistrement dans différents studios en France et au Canada? C'est compliqué techniquement?
Oui, c'est très compliqué. C'est une expérience que j'ai... avant de le faire, tu sais pas c'est quoi promener un disque dur un album de studio en studio, le rapporter chez soi, de remettre des trucs dedans, de repartir tout ça et d'ouvrir des sessions dans un nouvel environnement qui est pas nécessairement compatible, c'est sûr que ça puis que c'est plus le contexte, alors de trimballer des ébauches de studio en studio, ça a été un peu essoufflant, je dois avouer, mais en même temps c'était l'histoire de cet album là et j'en suis fier aujourd'hui, mais oui, ça reste compliqué, ouais.
On espère toujours que le disque dur va durer, justement.
Exactement, ouais. Il y avait beaucoup de backups. Après, ça, c'est sûr que...
Je comprends.
Ouais, c'est un peu mon angoisse, fait qu'à chaque fois, on faisait beaucoup de backups parce que ça peut être un cauchemar, en effet.
Sur la pochette de l'album, on vous retrouve avec un chat. J'imagine que c'est un animal de compagnie pour vous. Est-ce que son nom serait Vénus?
Non.
Heureusement,
Vénus n'était pas disponible pour les photos. Elle était chez sa mère et c'est ça. Alors, Vénus n'est plus dans ma vie. Alors non, c'était le chat de l'assistante de la photographe. Mais d'un côté, ouais, ça représente ce qui a représenté du félin. Vénus a été pour moi une grande icône dans ma vie pour m'apaiser. Quand j'écrivais, elle était toujours là. Pour moi, c'est un symbole de sérénité et c'est ce que j'aspirais à, la sérénité dans mes moments d'anxiété et quand Paris était un peu un hécatombe et que c'était un peu le bordel partout, le chat m'aidait vraiment. Alors, je devais une chanson et même une partie d'album dédiée à elle parce que sans elle, je suis pas certain que je l'aurais fini.
Sur son visage, Vénus. Ni présage ni plan. Pas de prémonition, Sa Majesté d'Égypte ronfle son tourment, sommité indolente. Tu t'endors
Voilà la chanson Vénus, c'est Piru Piru de l'album Noir Eden. Piru, la température clémente là, est à nos portes presque. J'imagine que vous allez avoir l'occasion de monter sur scène des deux côtés de l'Atlantique.
Oui.
On peut suivre, j'imagine, vos itinéraires sur votre site web au pirupiru.ca.
Oui, franchement, je pense que même sur ma page Facebook, les administrateurs ont mis, ils mettent les dates un peu en écran de fond, ce genre de truc-là. Je pense qu'aujourd'hui, les gens regardent un peu comme ça pour la tournée. Il y aura des festivals, des deux côtés de l'Atlantique.
Eh bien, Piru, le temps est venu de se quitter, mais on a le temps d'écouter un autre extrait d'une autre pièce de votre album à notre capsule d'aujourd'hui. Et il y a le nom d'un personnage de fiction qui fait surface sur votre album, un personnage qui a donné son nom à un groupe métal gothique anglais que l'on retrouve en littérature, dans des jeux vidéo et assurément au cinéma, Nosferatu. Un vampire bien connu revit sur votre album.
Exactement.
Un personnage important pour vous et votre culture?
Ouais, après, oui, en fait, je trouvais ça, c'est une genre d'analogie un peu à la génération, c'est ça, de dating et de Tinder love et tout ça, et je voyais des gens se vampiriser un peu de cette façon-là, et oui, Nosferatu, en fait, c'est une créature mythique qui me, le fantôme de la nuit, tout ça, ça a toujours été pour moi une créature assez intrigante et tout, et je dois avouer que c'est mon côté un peu geek en fait qui m'a amené à ça, parce que je jouais à un jeu de plateforme qui s'appelait Vampire la Mascarade quand j'étais adolescent, et il était sujet ici de vampires, et il y avait une des races de vampires qui s'appelait les Nosferatu, et c'était mes préférés. Alors il y a tout ça qui est hyper crypté, mais ouais, fait que finalement c'est manifesté dans mon album, ouais.
Ben, on se quitte avec votre Nosferatu, Piru Piru. On sait que votre horaire est chargé, alors on vous dit un gros merci pour ce moment que vous nous avez accordé aujourd'hui pour répondre à nos questions.
Merci.
Et bon succès à vous et à vos œuvres.
Merci. Santé et prospérité.
À la prochaine, mon cher.
Au revoir.
Minuit chante comme un oiseau triste. Et je lule dans un écho mes prières. Quoi que je dis, surtout quoi que je fasse. Je ferai, je l'ai déjà fait. Si je ne résiste pas, c'est que la ville est chaque fois plus belle, plus belle, plus belle, plus belle. Si je ne résiste pas, c'est que la cible est chaque fois plus belle, plus belle, plus belle.
Piru, paroles et musique est réalisé exclusivement pour CHUO 89,1 FM en collaboration avec Pixel Media. Ici Denis Ménard et merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui, et sachez que nous serons de retour vendredi prochain à 11h, toujours en mode radioactive, pour vous présenter une autre édition de Paroles et musique avec Annie Blanchard. Alors c'est un rendez-vous. D'ici là, bonne semaine à notre antenne et au revoir.